Chapitre 4. Le navire serpent. Le serpent blanc passait sans relâche de la maussaderie au sarcasme. Il refusait de révéler son nom. Les noms, disait-il, qu'importe les noms à des vers mourants. Lorsque Conteur insista pour qu'il donne un nom, le blanc finit par lui répondre, hargneux,
« Charogne, charogne, c'est le seul nom qui me sied, et bientôt ce sera aussi le vôtre. Nous sommes des êtres morts qui continuons à bouger, de la chair pourrie qui n'est pas encore inerte. Appelle-moi charogne, et je vous appellerai cadavre. »
Il tint parole. C'est ainsi qu'il s'adressait à eux. C'était une constante source d'irritation. Césuréa regrettait qu'ils aient rencontré cet animal, et plus encore qu'il lui ait soutiré l'histoire de celle qui se souvient. Personne ne lui faisait confiance. Il enlevait la nourriture des mâchoires de ceux qu'il avait capturés. D'une brusque morsure ou d'un battement de queue, il surprenait les serpents qui lâchaient leur proie, puis il s'en emparait. Pendant son sommeil, il laissait dégoutter de sa crinière les toxines fatales aux poissons, ce qui était parfaitement exaspérant car il dormait au milieu du nœud. Molkin l'étreignait alors de peur qu'il ne tente de s'échapper durant la nuit. Le jour, ils étaient obligés de le suivre. Ils trouvaient tous les moyens imaginables pour excéder le reste du nœud. Ils lambinaient, s'arrêtant souvent pour goûter le courant et s'interrogeaient tout haut sur le chemin à suivre, où il imposait une allure pénible et dédaignait toutes les protestations et les demandes de repos. Molkin le suivait toujours de près, mais il était visible que l'effort le minait. Il se passait rarement une marée sans que Charogne défiât Molkin de le tuer. Il affectait des attitudes insultantes. Il laissait s'écouler son venin en permanence et ne montrait aucun respect pour leur chef. Si Shriver avait été à la place de Molkin, elle aurait depuis longtemps étranglé le serpent blanc, mais lui contenait la violence de sa fureur, même quand le misérable se moquait de lui et de son rêve, ce qui n'empêchait pas Molkin de fouetter l'eau rageusement, ni ses ocelles dorées de luire comme le soleil sur la mer. Il ne voulait pas provoquer le blanc par des menaces. Celui-ci désirait trop ardemment mourir. Son plus cruel tourment, c'était de garder pour soi les souvenirs que lui avait donnés celle qui se souvient. Quand les serpents s'installaient pour la nuit en s'ancrant les uns aux autres, ils parlaient avant de s'endormir. Ils évoquaient et partageaient des réminiscences de leur héritage de dragon. Ce qui manquait à l'un, l'autre le fournissait. Ainsi s'assemblaient les fils de leurs souvenirs, qui formaient comme une tapisserie usée jusqu'à la corde. Parfois, il suffisait de prononcer un nom pour faire jaillir une cascade de fragments oubliés. Mais Charogne ne livrait rien, ricanant d'un air entendu tandis que les autres fouillaient leur cerveau fatigué. On avait toujours l'impression qu'il aurait pu les éclairer s'il l'avait voulu. C'est bien pourquoi Shriver n'avait qu'une envie, le tuer. La conversation cette nuit-là avait vagabondé jusqu'aux lointaines terres du sud. Quelqu'un se rappelait un grand endroit sec, dépourvu de gros gibier.
« Il a fallu des jours pour le survoler, » affirma Conteur. « Et il me semble que quand on se posait, le sable était si brûlant qu'on ne pouvait pas y rester. Il fallait... »«
Creuser, » intervint un autre tout ému. « Comme j'avais horreur des grains sous mes griffes et dans les plis de ma peau. Mais pas moyen de faire autrement. Il ne fallait pas atterrir en douceur, on devait glisser de façon à casser la croûte brûlante du sable et trouver une couche plus fraîche. Mais elle n'était pas si fraîche que ça. »
Cet indice sensoriel, les grains de sable dans les plis de sa peau, s'empara de l'imagination de Shriver. Elle sentit non seulement le sable brûlant, mais elle goûta aussi l'amertume particulière du lieu. Elle remua les mâchoires à se souvenir.
« Fermez vos naseaux à cause de la poussière !»
s'exclama-t-elle triomphante. Un autre serpent trompeta tout agité.
« Mais cela valait la peine, car une fois qu'on avait dépassé la région des sables bleus, il y avait...
Rien. Shriver se rappelait nettement l'impatience ressentie. Quand les sables passaient de l'or au bleu, on y était presque, au-delà du sable bleu. Il y avait quelque chose qui valait de supporter le long vol sans manger, quelque chose qui valait de braver les périls des tempêtes de sable. Pourquoi pouvait-il se souvenir de la chaleur et de l'irritation des grains de sable et non du but de leur voyage ?
« Attendez, attendez !»
s'exclama soudain le blanc saisi d'une vive émotion.
« Je sais ce que c'était. Au-delà du sable bleu, il y avait... Oh, c'était si beau, si merveilleux. Quelle joie de le découvrir. C'était... »
Il tourna la tête. Ses yeux écarlates chavirèrent pour s'assurer l'attention de tous.
« De la crotte !»
déclara-t-il tout réjoui.
« Des monceaux de crottes fraîches, marron et puantes. Et alors, nous nous proclamions seigneurs des quatre règnes, seigneurs de la terre, de la mer, du ciel et de la crotte. Ah, comme nous nous vautrions dans notre grandeur, fêtant tout ce que nous avions conquis et acquis, le souvenir est si clair, si brillant. Dis-moi, cadavre Cessuréa. Ce souvenir-là n'est-il pas de tous le plus net, le plus... »
C'en était trop. La crinière orange de Cessuréa se dressa et il fondit sur le blanc les mâchoires béantes. Avec une lenteur proche de l'indolence, Malkin roula sur lui-même pour s'interposer entre eux. Cessuréa fut forcé de s'écarter. Il ne provoquerait jamais Malkin, mais il rugit de dépit et les serpents qui l'entouraient lui firent place afin qu'il exhale son courroux. Ses yeux verts tournoyaient furieusement. Il demanda
« Pourquoi doit-on supporter cet avorton visqueux ? Il se moque de nos rêves, il se rit de nous. Comment croire qu'il nous conduit vraiment à celle qui se souvient ?»«
Parce que c'est vrai !» répondit Malkin.
Il ouvrit les mâchoires, avala de l'eau saline, la rejeta par ses ouïes.
« Goûte, Cessuréa. Le découragement a émoussé tes sens, mais goûte maintenant et dis-moi ce que tu perçois. »
Le grand serpent bleu obéit. Shriver l'imita ainsi que la plupart des autres. D'abord, elle ne perçut que leur propre sel âpre, les toxines de charogne. Puis, lui arriva une bouffée, reconnaissable entre tous. Le goût d'un serpent qui portait les souvenirs enfermés dans sa chair flottait faiblement dans l'eau. Shriver pompa frénétiquement par ses ouïes, cherchant à avaler encore la saveur fugace qui pâlissait, puis une traînée plus intense l'atteignit. Conteur, le grand et mince ménestrel vert, fila comme une flèche vers le manque. Il pointa la tête dans l'air nocturne et claironna un appel interrogateur. Tout autour de Shriver, les serpents montèrent plus rapidement que des bulles et surgirent autour de Conteur. Ils joignirent leur voix à la sienne et chantèrent leur quête. Brusquement, Malkin jaillit parmi eux en bondissant si haut qu'il s'arc-bouta de près d'un tiers de sa longueur au-dessus de l'eau avant de replonger.
« Silence !»
ordonna-t-il quand il refit surface.
« Écoutez !»
Les têtes et les cols ployés du nœud flottaient au sein de la vague. Au-dessus d'eux luisait une lune froide et les étoiles brillaient comme de blanches anémones. Toutes les crinières se hérissèrent. La surface de la mer était devenue une prairie émaillée de fleurs nocturnes. Le temps d'un souffle, ils n'entendirent que le frissonnement du vent et de la mer. Alors, aussi pure que la lumière, aussi douce que la chair, une voix s'éleva dans le lointain.
« Venez !»
chantait-elle.
« Venez à moi et je vous donnerai la connaissance. Venez à celle qui se souvient, et votre passé vous appartiendra et avec lui tout votre avenir. Venez, venez !»
Conteur trompeta une réponse enthousiaste, mais un « chut » sévère de Malkin le fit taire.
« Qu'est-ce ?»
car montait un second chant. Les paroles étaient étrangement tournées, les notes abrégées, comme si le serpent qui chantait n'avait pas de voix. Mais quel qu'il soit, il faisait écho à l'appel de celle qui se souvient.
« Venez !»
Venez à moi. Votre passé et votre avenir vous attendent. Venez, je vous guiderai, je vous protégerai. Obéissez-moi et je vous conduirai sain et sauf au pays. Une fois encore, vous prendrez votre essor. Une fois encore, vous volerez.
Toutes les têtes, tous les yeux chavirés se tournèrent vers Molkin. Sa crinière se dressait toute raide autour de son poitrail. Le venin gorgeait ses piquants et débordait.
« Nous y allons »
trompeta-t-il doucement à l'intention de son seul nœud et non aux voix des sirènes.
« Nous y allons, mais avec prudence. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans, et nous avons déjà été trompés. Venez, suivez-moi !»
Alors il rejeta en arrière son immense tête et ouvrit tout grand ses mâchoires dans la nuit. Ses ocelles étaient plus brillants que les astres. Quand il laissa éclater sa voix tonitruante, sa puissance fit vibrer l'eau autour de lui.
« Nous venons !»
rugit-il.
« Nous venons chercher nos souvenirs !»
Il replongea dans le plein. Il fila dans l'eau, suivi de son nœud. Seul, le serpent blanc hésitait. Shriver, toujours méfiante, jeta un regard en arrière.
« Imbécile, imbécile, imbécile !»
trompeta sauvagement Charogne dans la nuit.
« Et je suis le plus grand imbécile de tous !»
Puis, avec un cri sauvage, il plongea pour les rejoindre. Celle qui se souvient quitta le navire pour aller saluer les autres. Foudre la pressa de rester en disant qu'elle les accueillerait ensemble, mais elle ne pouvait pas attendre. Son destin était enfin venu la retrouver. Elle ne pouvait retarder davantage cette conclusion si longtemps attendue. Elle s'arc-bouta au-dessus d'eux dans un saut maladroit qui se voulait gracieux. Il y eut un terrible conflit entre son corps rabougri et l'ancien souvenir qu'elle conservait de rencontres analogues. Elle aurait dû être deux fois plus grande, puissamment musclée, un géant parmi les serpents, suffisamment pourvue de toxines pour figer de stupeur nombre de nœuds en leur transmettant leur ancestrale mémoire. Elle écarta toute appréhension. Elle leur donnerait tout ce qu'elle possédait. Il fallait que ce soit suffisant. Lorsqu'ils furent assez proches pour goûter mutuellement leurs toxines, elle s'arrêta. Elle se laissa enfoncer dans l'eau et battit des nageoires en les attendant. Le chef, un serpent tout bosselé qui rougeoyait du feu de ses ocelles, arrivait pour croiser les crocs avec elle. Les autres se déployèrent autour d'eux en éventail, les têtes alignées dans sa direction. Sous les remous des vagues, ils restaient tous ainsi en suspens, aussi immobiles que peuvent l'être des animaux marins exactement espacés et alignés. Ils étaient nombreux. Ils n'allaient bientôt plus former qu'un seul organisme uni dans la mémoire de leur espèce. Elle ouvrit tout grand ses mâchoires, découvrant les dents dans un salut solennel. Elle secoua sa crinière jusqu'à ce que la collerette de piquants venimeux autour de son poitrail soit dressée dans toute sa splendeur. Chaque pointe était hérissée, gorgée des toxines qu'elle allait bientôt relâcher. Elle se maîtrisa avec rigueur. Il ne s'agissait pas de l'éveil d'un unique serpent. C'était la résurrection d'un nœud tout entier.
« Molkin, du nœud de Molkin te salue, celle qui se souvient. »
Il promena ses grands yeux cuivrés sur le corps difforme du serpent, les fit tournoyer sous l'effet de la consternation ou de la compassion, puis son regard s'immobilisa. Il découvrit ses crocs. Elle les heurta légèrement de ses dents. La crinière de Molkin se raidit dans une réaction réflexe. Les serpents de son nœud, qu'une longue association avait habitués au poison de leur chef, seraient très vulnérables au mélange des toxines de l'étrangère avec celles de Molkin, indispensables au processus d'éveil. Elle exhala un faible remous vers les mâchoires béantes, le fit avaler et en guetta l'effet. Les yeux du chef se mirent à tourner lentement, la couleur se répandit à travers sa crinière, des nuances de violet et de rose engorgèrent ses piquants. Elle lui laissa le temps de s'adapter. Alors, presque langoureusement, elle s'enroula autour de lui. Comme il convenait, il se soumit à elle. Elle mesura son corps au sien. Leurs sécrétions visqueuses se confondirent. Elle marqua une pause, paupières baissées pour s'accorder aux acides, puis transportée dans l'extase du souvenir, elle emmêla sa crinière à la crinière de Molkin afin d'activer les glandes qui épanchèrent un nuage de leurs venins fondus ensemble. Goûter à ces toxines qu'elle n'avait pas sécrétées faillit l'étourdir. Puis sa perception du monde nocturne s'aiguisa. À l'instar de Molkin, elle connut chaque serpent qui formait le nœud. Elle absorba les souvenirs confus qu'il avait de maintes pérégrinations migratoires et les débrouilla pour lui. Elle partagea subitement l'errance d'une génération perdue. La pitié lui lacéra l'âme. Il restait si peu de femelles, elles étaient âgées. Leurs âmes avaient été emprisonnées pendant des décennies dans des corps destinés à n'être que provisoires. Pourtant, la compassion qui lui faisait vibrer le cœur fut noyée par la trompette triomphante de l'orgueil. En dépit de tout, son espèce avait survécu. Elle avait prévalu contre tous les obstacles. D'une façon ou d'une autre, les siens allaient achever leur migration, ils allaient fabriquer leur cocon, en sortiraient dragons. Les seigneurs des trois règnes repeupleraient le ciel. Elle sentit l'esprit de Molkin s'accoler au sien.
Oui,
trompeta-t-il, et ce fut le signal. Elle lui souffla ses toxines en pleine face. Il ne se débattit pas. Au contraire, il plongea volontairement dans l'inconscience. Il s'abandonna pour devenir le dépositaire des souvenirs de sa race. Elle fouettait de sa queue tordue tout en maintenant son étreinte. Lentement, en déployant de grands efforts, elle les fit tourner tous deux, les fit tournoyer dans un cercle ruisselant de toxines qui s'étendit peu à peu à la multitude en attente. Elle vit vaguement le poison atteindre les autres serpents. Ils se figèrent, raidis, envoûtés. Puis ils se mirent par réflexe à battre des nageoires pour surnager, tandis que leurs esprits s'ouvraient au trésor des souvenirs. Elle était petite, estropiée. Elle se fatiguait trop vite. Elle espérait que ses glandes contiennent assez de poison pour eux tous. Elle écarta les mâchoires et fit fonctionner les muscles qui pompaient les toxines de sa crinière. Elle faisait de grands efforts, continua à se contracter convulsivement longtemps après avoir tari ses glandes. Épuisée, elle s'acharna à faire tourner Molkin, s'employant à disperser leur poison mêlé vers les serpents fascinés. Elle peina ainsi au-delà de l'instinct, poussant consciemment son corps jusqu'à la limite de ses forces. Elle se rendit compte que Molkin lui parlait. C'est lui qui la tenait à présent. Elle était exténuée. Il bougeait avec elle, lui remplissait les ouïes.
Assez, dit-il d'une voix douce. C'est assez, repose-toi. Celle qui se souvient, le nœud de Molkin est désormais nous qui nous souvenons. Tu as accompli ton devoir.
Elle désirait ardemment se reposer, mais elle réussit à les prévenir.
J'en ai éveillé une autre. L'argentée se réclame de notre parenté. Je me méfie d'elle. Pourtant, elle est peut-être la seule à connaître le chemin du retour.
La mer bouillonnait de serpents. Depuis qu'il naviguait, Kenneth n'avait jamais vu pareil spectacle. Avant l'aube, leur cœur de trompette l'avait réveillé. Ils grouillaient autour de sa vive nef. Ils dressaient leur gigantesque tête à crinière pour scruter le navire avec curiosité. Leur long corps fendait l'eau devant la proue de foudre, ruisselait dans son sillage. Les couleurs étonnantes luisaient dans la lumière matinale, leurs yeux immenses tournoyaient comme des roues. Sur le gaillard d'avant, Kenneth se sentait la cible de ces regards qui ne sillaient pas. Foudre était entouré de la cour de ces étranges soupirants. Ils émergeaient de l'eau, certains se dressaient presque au niveau de la figure de proue pour la regarder en silence, ou bien en trompettant et en sifflant. Quand elle leur chanta sa réponse, les énormes têtes se tournèrent vers Kenneth pour le fixer des yeux. Pour un homme qui avait déjà perdu une jambe à cause d'un serpent, ses regards avides étaient troublants. Néanmoins, il demeurait à son poste et gardait le sourire. Derrière lui, les hommes s'activaient sur le pont et dans le gréement avec une prudence accrue. En dessous béait la double menace de la mer et des crocs. Peu importait que les serpents ne manifestent pas d'agressivité. Leurs rugissements, leurs pirouettes suffisaient à intimider tout le monde. Seul Éta semblait s'être délivré de sa peur des serpents. Elle se cramponnait à la lisse, les yeux élargis et les joues empourprées, en contemplant le spectacle de leur tapageuse escorte. Yémin se tenait derrière elle, les bras croisés étroitement sur la poitrine. Il s'adressa au navire. « Qu'est-ce qu'ils te disent? Et que leur réponds-tu ?» La figure de Proust arc-bouta pour le regarder. Alors, sous les yeux de Kenneth, le garçon tressaillit comme s'il avait été poignardé. Il pâlit tout à coup, ses genoux flageolèrent et il s'écarta de la lisse en chancelant. La démarche incertaine, le regard vague, il quitta le gaillard d'avant sans ajouter un mot. Kenneth songea un instant à l'interroger, puis se ravisa. Il n'avait pas encore pris toute la mesure de Foudre. Il ne voulait pas risquer de l'offenser. L'expression aimable de la figure de proue ne s'était pas modifiée. Elle déclara à l'adresse de Kenneth.
« Ce qu'ils disent ne concerne pas les humains. Ils parlent de rêves de serpents. Je leur assure que je fais les mêmes, c'est tout. Ils vont me suivre maintenant et m'obéir. Choisis ta proie, capitaine Kenneth. Ils vont les prôner, la dépecer comme une harde de loup élimine le taureau faible du troupeau. Tu n'as qu'à dire où nous allons, et tout ce que nous croiserons sur notre route tombera comme un fruit mûr entre tes mains. » Elle lui lança cette offre sur un ton désinvolte. Kenneth se força à l'accepter avec équanimité, mais il en comprit immédiatement les implications. Des navires, mais aussi des villes, mais aussi des cités à piller. Il regarda son escorte aux couleurs d'arc-en-ciel et l'imagina grouillant dans la baie de Terrilville, cabriolant devant les quais de Jamelia. Elle pouvait faire un blocus qui paralyserait le commerce. Avec une flottille de serpents à ses ordres, il pouvait se rendre maître de l'ensemble des échanges dans la passe intérieure. Elle lui proposait la domination de la côte tout entière.
Et il s'aperçut qu'elle l'observait du coin de l'œil. Elle savait parfaitement ce qu'elle lui offrait. Et il s'approcha d'un pas pour n'être entendu que d'elle.
« Et que m'en coûtera-t-il ? Seulement ce que tu demanderas quand tu le demanderas ?»
Les lèvres écarlates s'incurvèrent en un sourire suave.
« Exactement !»
Il n'était plus temps d'hésiter.
« Tu l'auras !» affirma-t-il à mi-voix.
« Je sais !»
répondit-elle.
« Qu'est-ce qui ne va pas ?»
demanda Éta avec humeur. Yémin leva les yeux, surpris.
« Pardon ? Pardon, mon cul !»
Elle fit un geste en montrant le tablier posé entre eux sur la table basse.
« C'est à toi de jouer ! C'est à toi de jouer depuis belle lurette ! J'ai eu le temps de finir ma boutonnière ! Mais quand je lève les yeux, tu es là à lorgner la lanterne. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'arrives pas à te concentrer depuis quelque temps. »
Et ceci parce qu'il avait l'esprit occupé d'une seule et unique pensée. Il aurait pu l'avouer, mais il préféra hausser les épaules.
« Je me sens un peu inutile, je crois, ces derniers temps. »
Elle sourit malicieusement.
« Ces derniers temps? Tu as toujours été inutile, petit prêtre. Pourquoi ça te tracasse tout d'un coup ?»
Voilà. C'était la question. Pourquoi cela le tracassait-il? Depuis que Kenneth s'était emparé du navire, il n'avait aucun statut officiel. Il n'était pas le mousse, il n'était pas le valet du capitaine, et personne n'avait jamais pris au sérieux son titre de propriétaire du navire. Mais il avait eu une fonction. Kenneth lui avait assigné des corvées, lui avait aiguisé l'esprit en se mesurant à lui, mais tout ceci n'avait fait simplement qu'occuper son temps. Et Vivacia avait occupé son cœur.
Un peu tard pour s'en apercevoir, pensa-t-il amèrement.
Un peu tard pour admettre que son lien avec la vive nef avait déterminé sa vie à bord.
Elle avait eu besoin de lui et Kenneth l'avait utilisé comme un pont entre eux. À présent, il n'était plus nécessaire ni à l'un ni à l'autre. En tout cas, la créature qui habitait le corps de Vivacia n'avait plus besoin de lui. En réalité, c'est à peine si elle le tolérait.
Il avait encore des élancements dans la tête après sa dernière rebuffade. Il ne gardait qu'un souvenir vague de sa guérison. Des jours de convalescence avaient suivi. Il était resté allongé sur sa couchette à observer les jeux de lumière sur la cloison de sa cabine, sans penser à rien. La régénération rapide de ses tissus avait épuisé toutes ses réserves physiques. Etta lui avait apporté à manger, à boire, des livres qu'il n'ouvrait jamais. Elle lui avait aussi apporté un miroir, croyant par là le rasséréner. Il constatait que son corps s'était reconstitué sur l'injonction de Kenneth. La peau de son visage s'était purgée de l'encre du tatouage. La marque que son père avait apposée sur lui pâlissait chaque jour un peu plus, jusqu'à ce que l'image de Vivacia disparût complètement, comme si elle n'avait jamais été. C'était l'action du navire. Il le savait. Kenneth n'avait été que son instrument. Un second miracle s'était accompli et le capitaine pouvait en récolter les bénéfices. Quant à Yémin, Foudre lui avait bien fait comprendre qu'elle n'avait nul besoin de son acquiescement pour exercer sur lui sa volonté. Elle l'avait frappé de guérison. Elle n'avait pas régénéré son doigt manquant. Était-ce parce que cette opération excédait les possibilités de son corps, ou les pouvoirs curatifs de Foudre, ou bien parce qu'elle s'était refusée à agir? Elle avait effacé de son visage l'image de Vivacia et la signification de cet acte était évidente. Etta frappa sur la table et il sursauta. « Tu recommences, et tu n'as même pas répondu à ma question !»«
Je ne sais plus que faire de moi-même, » avoua-t-il. « Le navire n'a plus besoin de moi. Kenneth n'a plus besoin de moi. Je n'ai jamais été qu'un intermédiaire entre lui et le navire. Maintenant, ils sont ensemble et je suis... »«
Jaloux ?»
compléta Etta.
« Jaloux à en crever. » J'espère que j'étais plus subtil quand j'étais à ta place. Pendant longtemps, j'ai été comme toi à me demander où je me situais, si Kenneth avait besoin de moi, et si oui, pourquoi. Je détestais ce navire qui le fascinait à ce point.
Elle lui adressa un sourire crispé empreint de commisération.
Je te plains, mais ça ne t'avancera à rien.
Qu'est-ce qui m'avancerait?
T'occuper, surmonter, apprendre quelque chose de nouveau.
Elle noua un fil.
Trouve quelque chose pour t'occuper l'esprit.
Comme quoi ?
Fit-il amèrement. Elle rompit son fil d'un coup de dent et tira pour s'assurer que le bouton en os tenait solidement. Elle indiqua du menton le tablier de jeu négligé.
M'amuser, par exemple ?
À son sourire, il comprit qu'elle plaisantait. Elle remua le menton et la lumière de la lampe coula sur les cheveux lustrés et effleura les pommettes saillantes. Etta lui lança un coup d'œil à travers ses cils baissés tout en enfilant son aiguille. La gaieté pétillait dans ses yeux sombres. La commissure de ses lèvres se retroussa légèrement. Oui, il pouvait trouver quelque chose pour s'occuper l'esprit, quelque chose qui probablement mènerait au désastre. Il se força à reporter son regard sur le tablier et joua son coup.
Apprendre quelque chose de nouveau, comme quoi ?
Elle eut un reniflement de mépris. Sa main jaillit et d'un seul coup, elle démolit les défenses de Yémin.
« Quelque chose d'utile. À quoi tu t'appliquerais au lieu de brasser de l'air en pensant à autre chose ?»
D'un geste, il balaya les pièces du jeu.
« Qu'est-ce que je peux apprendre à bord que je n'ai déjà appris ?»«
La navigation ?»
suggéra-t-elle.
« Moi, ça me dépasse, mais tu connais les chiffres déjà. Tu pourrais maîtriser la navigation. »
Cette fois-ci, ses yeux étaient sérieux.
« Ce que tu devrais apprendre, tu le repousses depuis trop longtemps. Remplis le vide que tu portes comme une blessure béante. Va là où ton cœur te mène toujours. Voilà trop longtemps que tu te renies. »
Il se figea.
« Et c'est ?»
demanda-t-il à mi-voix.
« Apprends à te connaître. Ta prêtrise. »
Il fut saisi par l'acuité de sa propre déception.
Il refusa même de penser à ce qu'il avait espéré entendre. Il secoua la tête et répondit d'une voix amère.
« J'ai laissé tout cela depuis trop longtemps. Ma foi en ça est solide, mais ma dévotion n'est plus ce qu'elle était. Un prêtre doit être prêt à vivre pour les autres. À une époque, j'ai cru que j'y trouverais le bonheur, mais maintenant...
Il croisa son regard avec franchise.
« J'ai appris à vouloir des choses pour moi, »
dit-il à mi-voix. Elle se mit à rire.
« Mais t'as vu que Kenny t'enseignerait ça à merveille. Pourtant, je crois que tu te méprends sur ton compte. Peut-être as-tu perdu l'intensité de ta concentration, Yéma, mais sonde ton cœur. Si tu pouvais obtenir une chose, là, tout de suite, que choisirais-tu ?»
Il ravala les mots qui lui venaient aux lèvres.
État avait changé. Il avait participé à ce changement. Sa façon de parler, de penser, reflétait les lectures qu'ils avaient partagées.
Elle n'était pas devenue plus sage, non. La sagesse avait toujours brillé en elle.
Mais maintenant, elle avait les mots pour exprimer ses pensées. Elle avait été comme la flamme d'une lanterne qui brûle derrière un verre noir de suie. Aujourd'hui, le verre était clair et sa lumière brillait haut.
Elle eut une moue irritée. Il tardait trop à répondre. Il éludait sa question.
« Vous vous rappelez la nuit où vous m'avez dit que je devrais découvrir où je me situais et repartir de là? Accepter la forme que ma vie avait prise et en tirer le meilleur parti possible ?»
Elle haussa un sourcil comme en signe de dénégation. Le cœur de Yéma se serra.
Était-il possible que quelque chose d'aussi important pour lui n'ait laissé aucune trace en elle?
Alors elle secoua la tête avec regret.
« Tu étais si sérieux. Je voulais te taquiner. Quel gamin tu faisais. J'ai du mal à croire que tout récemment encore tu étais si jeune. »« Tout récemment ? »
fit-il en riant.
« Moi, j'ai l'impression que ça fait des années. J'ai connu tant de vicissitudes depuis. »
Il rencontra son regard.
« Je vous ai appris à lire et vous avez dit que cela avait changé votre vie. Savez-vous à quel point vous avez changé la mienne ?»
« Eh bien, » elle se laissa aller contre son dossier et réfléchit.
« Si je ne t'avais pas appris à te servir d'un couteau, tu serais mort à l'heure qu'il est. Donc je suppose que j'ai changé le cours de ta vie au moins une fois. J'essaie de m'imaginer mon retour au monastère. Il faudrait que je dise adieu à mon navire, à Kenith, à vous, à mes camarades de bord, à ma nouvelle vie. Je ne sais pas si je pourrais revenir en arrière. » Demeurer avec Bérandol à méditer ou à me plonger dans les livres. »
Il eut un sourire de regret.
Ou travailler à ces vitraux dont je tirais une telle fierté. Ce serait renier tout ce que j'ai appris ici. Je suis comme un petit poisson qui s'est aventuré trop loin de sa mare tranquille et qui a été précipité dans le fleuve. J'ai appris à survivre ici maintenant. Je ne sais pas si je pourrai encore me contenter d'une vie contemplative.
Elle le regarda bizarrement.
Je ne voulais pas dire que tu retournes à ton monastère. Je songeais seulement que tu devrais redevenir un prêtre. Ici, sur le navire, pourquoi? Et pourquoi pas? Tu m'as dit une fois que si un homme est destiné à être prêtre, rien ne peut l'en détourner. Cela lui arrivera où qu'il soit. Que peut-être ça t'avait placé ici parce que tu étais destiné à faire quelque chose ici. Le destin et tout ça. Elle répétait ses paroles avec désinvolture, mais sous son ton léger, il devina un espoir fou. « Et pourquoi ? » répéta-t-il. « Pourquoi insistez-vous là-dessus aujourd'hui ?»
Elle se détourna.
« Peut-être que je regrette la façon que tu avais de parler. Quand tu soutenais que dans tout ce qui arrivait, il y avait un sens et une forme, même si on ne pouvait les discerner sur le moment. C'était réconfortant de l'entendre, même si je n'y croyais pas complètement. De t'entendre parler du destin et du reste. »
Elle laissa sa main errer sur sa poitrine, puis la retira vivement. Il savait ce qui l'avait fait tressaillir. C'était le petit sac qu'elle portait autour du cou, contenant l'amulette de l'île des autres, la figurine d'un bébé. Elle la lui avait montrée alors qu'il se remettait tout juste de la guérison miraculeuse. Il avait deviné quelle importance revêtait pour elle ce charme, mais n'y avait pas sérieusement réfléchi depuis lors. Ce qui manifestement n'était pas le cas d'État. Elle considérait l'étrange objet comme une sorte de présage. Si Yéma avait cru les autres véritablement clairvoyants et prophètes, peut-être aurait-il abondé dans son sens, mais ce n'était pas le cas. Il était probable que la figurine avait été rejetée sur la plage par les vents et les marées avec toutes sortes de débris. Quant aux autres, le serpent qu'il avait délivré avait gravé en Yémen l'opinion qu'il avait d'eux.
Abomination.
Si l'acceptation du mot n'était pas claire, l'horreur et la haine qu'il exprimait étaient sans ambiguïté.
Les autres n'auraient jamais dû exister.
Ils avaient volé un passé qui ne leur appartenait pas, ils n'avaient nul pouvoir de prédire l'avenir. Le charme qu'Éta avait trouvé dans sa botte n'était que pure coïncidence, il n'était pas plus prodigieux que le sable qui l'accompagnait. Il pouvait difficilement lui faire part de son sentiment sans l'offenser, et ce serait pénible. Il commença avec circonspection.
« Je crois toujours que chaque être a un destin unique et particulier. »
Elle sauta sur le sujet avant qu'il ait eu le temps de l'aborder en douceur.
« Il se pourrait que ce soit mon destin de porter l'enfant de Kenith, de donner un prince au roi des pirates ?»«
Il se peut aussi que votre destin soit de ne pas porter cet enfant. »
repartit-il. Une expression fugitive de mécontentement passa sur le visage d'Éta, aussitôt remplacée par l'impassibilité.
Il l'avait blessé.
« Alors, c'est ce que tu crois ?»
Il secoua la tête.
« Non, Éta. Je ne crois ni l'un ni l'autre. Je dis simplement que vous ne devriez pas cantonner vos rêves dans un enfant ou dans un homme. Celui qui vous aime, celui que vous aimez, a moins d'importance que ce que vous êtes. Trop de gens, hommes et femmes, aiment la personne qu'ils voudraient être, comme si en aimant cette personne ou en étant aimés, ils acquéraient de l'importance. Je ne suis pas ça. Je ne possède pas sa toute-puissante sagesse. Mais je crois que vous avez plus de chances de trouver le destin d'Éta dans Éta elle-même qu'en comptant sur Kenith pour vous féconder. »
La colère crispa le visage d'Éta. Puis les yeux toujours étincelants d'indignation, elle se mit à réfléchir à ses paroles. Enfin, elle déclara d'un ton bourru.
« C'est difficile de se fâcher quand tu dis que je pourrais avoir de l'importance par moi-même. »
Elle planta son regard dans le sien.
« Je pourrais le prendre comme un compliment. Sauf que je doute de ta sincérité, puisqu'à l'évidence, tu ne crois pas que ce soit vrai pour toi. »
Devant son silence ahuri, elle poursuivit.
« Tu n'as pas perdu la foi en ça. Tu as perdu la foi en toi-même. D'après toi, je me mesure à l'aune de l'importance que Kenith m'accorde. Mais tu fais la même chose? Tu estimes ton utilité en fonction de Vivacia ou de Kenith? Prends ta vie en main, Yémin. Sois en maître. Alors peut-être pourras-tu avoir de l'importance à leurs yeux. »
Comme une clé qui tourne dans une serrure rouillée. Ce fut ce qu'il ressentit. Ou comme une blessure qui se rouvre et recommence à saigner, pensa-t-il avec ironie. Et il passa les paroles d'Éta au crible à la recherche d'un défaut dans sa logique, d'une astuce dans sa formulation. Il n'y en avait point. Elle avait raison. Il ne savait comment, un beau jour, il avait renoncé à être maître de sa vie. Ses méditations laborieuses, fruits de ses études et de la tutelle de Bérandol dans une autre vie, étaient devenues des platitudes qu'il débitait sans les appliquer à lui-même. Il se rappela tout à coup le petit novice qui confiait à son tuteur combien il redoutait le voyage en mer pour rentrer chez lui parce qu'il serait forcé de côtoyer des hommes du commun et non des acolytes réfléchis comme lui. Qu'avait-il dit à Bérandol ?
Des gens ordinaires, pas comme nous.
Il méprisait alors le genre de vie où le quotidien vous empêche de faire votre examen de conscience. Bérandol avait laissé entendre qu'en passant quelque temps dans le monde, il changerait peut-être de regard sur les gens qui gagnaient durement leur pain. Avait-il changé ? Ou avait-il changé de regard sur les acolytes qui consacraient de si longues heures à l'introspection qu'ils ne faisaient jamais vraiment l'expérience de la vie ? Il avait été plongé contre sa volonté dans le monde des bateaux et de la navigation. Il n'avait jamais adopté tout à fait cette vie, ni accepté ce qu'elle pouvait lui offrir. En prenant du recul, il discerna dans ses actes une résistance systématique. Il s'était opposé à son père, avait lutté contre Torg pour survivre, repoussé les avances de la vive nef qui voulait se lier avec lui. Il s'était allié avec les esclaves, mais s'était méfié d'eux dès qu'il s'était affranchi. Quand Kenith était arrivé à bord, Yémin avait refusé de démordre de ses prétentions sur le navire en dépit des efforts que le navire avait déployés pour conquérir Vivacia. Et pendant tout ce temps, il avait mijoté dans l'attendrissement sur soi. Il avait langui de son monastère, il s'était promis qu'à la première occasion, il redeviendrait ce Yémin-là. Même après s'être résigné à accepter la vie que ça lui donnait et à y trouver du sens, il était demeuré sur la réserve. Il avait superposé l'aveuglement à l'aveuglement. Résisté obstinément à la volonté de ça, il s'en rendait bien compte aujourd'hui. Il n'avait pas embrassé son destin. Il s'y était résigné de mauvaise grâce, n'acceptant que ce qui lui était imposé, ne recevant que ce qu'il jugeait recevable au lieu d'englober le tout dans son sacerdoce. Quelque chose... Il y avait quelque chose, là, une idée, une illumination qui frémissait à la frange de sa conscience. Une révélation prête à se dévoiler. Son regard perdit de sa fixité, sa respiration se ralentit et s'approfondit. Etta déposa son ouvrage de couture, elle ramassa les pièces du jeu et les replaça dans leur boîte.
« Je crois qu'on en a fini avec les jeux pour un moment, »
dit-elle à mi-voix. Il acquiesça d'un hochement de tête. Ses pensées réclamaient son attention, et il remarqua à peine qu'elle quittait la pièce. Celle qui se souvient le reconnut. Sur le pont, le deux-pattes Yémin regardait les serpents cabriolés dans le clair de lune. Elle fut étonnée qu'il soit vivant. Elle l'avait poussé à bord du navire dans la seule intention qu'il mourût parmi les siens. Ainsi, il avait survécu. Quand il posa les mains sur la lys, celle qui se souvient perçut la réaction de foudre. Ce n'était pas un tremblement physique, mais un frisson de tout l'être. Une faible odeur de peur tinta l'eau. Foudre avait donc peur de ce deux pattes? Perplexe, le serpent se rapprocha. Foudre était né dragon. Cela, au moins, celle qui se souvient l'admettait. Mais Foudre aurait beau refuser vigoureusement le fait, elle n'était plus ni dragon ni serpent. Elle était un être hybride, sa sensibilité humaine se mêlait à son essence de dragon, et le tout était contenu dans sa forme de navire. Celle qui se souvient plongea sous l'eau et s'aligna sur la quille argentée. C'était là qu'elle sentait le plus nettement la présence du dragon. Presque aussitôt, elle devina que la vive nef ne souhaitait pas sa proximité, mais elle n'eut aucun scrupule à rester. Elle avait des obligations envers le nœud de serpent qu'elle avait éveillé. Si le navire présentait un danger pour eux, elle le découvrirait. Elle ne fut guère surprise que Molkin le Doré vienne la rejoindre. Il ne se souciait pas de dissimuler ses intentions.
« Je veux en savoir plus !»
lui déclara-t-il. D'un léger redressement de sa crinière, il indiqua le navire qu'il suivait.
Elle nous exhorte à la patience. Elle affirme qu'elle est là pour nous protéger et nous guider. Elle paraît en savoir long sur ce qui s'est passé depuis l'époque où les dragons peuplaient le ciel, mais je sens qu'elle tait autant qu'elle révèle. Tous mes souvenirs me disent que nous aurions dû atteindre le fleuve au printemps. L'hiver nous talonne maintenant et pourtant elle nous conseille d'attendre. Pourquoi ?
Elle admira sa franchise. Peu importait à Molkin que le navire connaisse les doutes qu'il nourrissait à son endroit. Celle qui se souvient préféra montrer plus de délicatesse.
Il faut patienter pour le découvrir. Pour l'heure, elle est alliée aux deux pattes. Elle prétend que le moment venu, elle les utilisera pour nous aider. Mais pourquoi alors tremble-t-elle en présence de celui-là ?
La vive nef ne manifesta d'aucune manière qu'elle entendait leur conversation sous-marine. Celle qui se souvient détecta un subtil changement dans le goût de l'eau autour d'eux. La colère maintenant s'ajoutait à la peur. Dépossédée de sa véritable forme, sa chair frustrée tentait malgré tout de sécréter le venin de ses émotions. Celle qui se souvient fit fonctionner ses glandes de poison. Elle n'en tira pas grand-chose. Il fallait du temps pour que son corps refasse ses réserves. Néanmoins, elle ouvrit tout grand ses mâchoires, absorba le faible venin de foudre et renvoya le sien. Elle s'ajusta au navire afin de mieux le sentir. Au-dessus d'eux, le deux-pattes agrippa la lys. En fait, il posa les mains sur le corps du dragon. Celle qui se souvient perçut le frisson de la vive nef qui reporta toute son attention sur Yéma.
Bonsoir, Vivacia.
La voix était étouffée par l'eau et la distance, mais le contact de la main avec la lisse amplifiait la portée de ses paroles qui se propageaient à travers la membrure jusqu'à celle qui se souvient.
Je te connais,
disait ce contact. En prononçant le nom que Foudre dédaignait, il réclamait une partie d'elle. Et à juste titre, conclut le serpent, malgré la résistance que lui opposait le navire.
Va-t'en, Yéma. Je pourrais, mais cela ne servirait à rien. Tu sais ce que j'étais en train de faire, Vivacia? J'étais en train de méditer. Je suis rentré en moi-même, et tu sais ce que j'ai découvert?
Les battements de ton cœur?
Avec une impitoyable cruauté, le navire entra en contact avec lui. Celle qui se souvient sentit les mains du garçon se serrer et son cœur s'affoler.
Arrête,
supplia-t-il convulsivement.
S'il te plaît,
ajouta-t-il.
De mauvaise grâce, Foudre lâcha prise.
Yéma se cramponna à la lisse. Quand il eut retrouvé une respiration plus régulière, il dit à mi-voix :
Tu sais ce que j'ai découvert quand je suis rentré en moi-même. Je t'ai découverte, toi, emmêlée à moi, corps et âme. Navire, nous ne faisons qu'un, et nous ne pouvons nous tromper l'un l'autre. Je te connais, tu me connais. Nous ne sommes ni l'un ni l'autre ce que nous prétendons être.
Je peux te tuer,
fit la vive nef d'une voix rageuse.
Je sais,
mais tu ne seras pas débarrassé de moi pour autant.
Si tu me tues, je continuerai à faire partie de toi. Je crois que tu le sais aussi. Tu cherches à m'écarter, mais je ne pense pas que je m'éloignerai suffisamment pour que le lien soit tranché. Cela ne ferait que nous rendre malheureux tous les deux.
Je suis prête à prendre le risque?
Pas moi,
repartit posément Yéma.
Je te propose une autre solution. Acceptons ce que nous sommes devenus, sous tous nos aspects. Si tu cesses de nier tes côtés humains, j'accepterai le serpent et le dragon en moi, en nous,
corrigea-t-il pensivement. Un silence s'écoula avec le doux murmure de l'eau. Quelque chose montait lentement à l'intérieur du navire, tel le venin gorgeant la crinière hérissée d'un serpent. Mais quand Foudre parla, l'amertume jaillit d'elle comme un abcès qui crève.
« C'est bien le moment de proposer cela, Yéma Vestrit, vraiment le moment !»
Elle l'abattit d'une chiquenaude de dragon qui chasserait une corneille agaçante. Le deux pas tomba de tout son long sur le pont, des gouttes de sang suintèrent de ses narines sur les planches. Le navire avait beau rugir de défi, son bordage s'imprégna du liquide rouge et l'absorba.